Le climat est extrêmement tendu dans la mesure où Colombo n'a fait quasiment aucun effort pour le rétablissement de l'état de droit, de la mise en œuvre de plans de réinstallation au profit des passés internes tamouls de l'honneur de l'île. La question du respect du droit d'expression, des médias en général est sous tension. Ce manque de volonté politique de faire avancer un processus de réconciliation, sa gestion du pouvoir actuel a toutes les caractéristiques d'un régime dictatorial.
Peut-on parler également d'une mise à l'écart politique, sociale et économique de la population tamoule?
En gros, oui. Le gouvernement, pour l'instant, a refusé de mettre en place l'amendement 13 de la Constitution qui vise à transférer les pouvoirs de police et de gestion financière et de développement économique aux assemblées provinciales. C'est l'une des clés, finalement, de la réconciliation nationale et d'un possible futur pour la minorité tamoule d'avoir accès, finalement, à son plein droit de citoyen. Donc, dans ce contexte-là, on assiste à finalement une omniprésence de l'armée dans l'économique. Il faut savoir que, d'une, c'est l'armée qui délivre, par exemple, les permis de pêche qui, bien souvent, favorise les pêcheurs du Sud. Deux, la majorité des initiatives économiques, construction de restaurants, magasins, hôtels, sont aussi portées par des militaires, parfois avec des deniers publics. Tout ça donc va à l'encontre finalement des possibilités pour la minorité tamoule de se relancer économiquement vu leurs faibles moyens.
Vous avez le sentiment que la communauté internationale n'a pas pris la mesure de ce qui est en train de se jouer au Sri Lanka ?
Non, je pense pas. Je pense que la communauté internationale est très consciente de ce qui se passe à Sri Lanka. Et ça a commencé d'ailleurs dès le lendemain de la fin de la guerre en 2009, lorsque par exemple la Commission européenne a décidé de stopper son accord économique avec Sri Lanka. Non, on ne peut pas nier finalement la prise de conscience des États-nations en Europe et plus largement aux quatre coins du monde. Après, c'est une question de position pragmatique. On a par exemple l'Australie qui a affirmé publiquement qu'il était hors de question de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays souverain. Et dans ce cadre-là, qu'il était hors de question pour l'Australie de faire la morale sur la question des droits de l'homme dans le cadre de cette rencontre. Et après, on a d'autres positionnements, par exemple du gouvernement anglais, qui est beaucoup plus radical et qui dit que oui, on n'a pas boycotté pour justement s'offrir la possibilité de rentrer sur le territoire de Sri Lanka et de questionner concrètement le gouvernement, le président Rajapaksa, sur la situation dans le pays.
Dans ce contexte particulièrement sombre, quelle sortie de crise peut-on imaginer ?
L'un des leviers qui soulève encore un peu d'espoir sur place, c'est finalement la pression potentielle de l'Inde sur le gouvernement de Colombo. Ont été organisées des élections récentes au nord de l'île. Et le TNA, donc, qui est le rassemblement des partis tamouls au nord, a été élu avec une majorité assez écrasante. Et pour la première fois, le TNA a fait campagne électorale sur la volonté non pas de séparatisme territorial, mais de dévolution des pouvoirs de Colombo aux assemblées, afin de pouvoir finalement être décideur dans la voie de développement du territoire. Et on se dit que, enfin, il se dit à Delhi et aussi à Colombo que cette position un peu plus douce de la part du TNA pourrait ouvrir des voies de négociation intéressantes dans la visée de la mise en place de cet amendement 13 qui est encore à nouveau la clé, l'une des clés du moins de réconciliation du pays.